Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Fini les vacances pour les élèves. La rentrée scolaire est confirmée pour ce lundi 4 septembre 2023. Vous allez entendre le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique à l'ouverture de ce journal. Lancement hier par le président de la République Félix Tshisekedi de la première production des carreaux et faïences de la zone économique spéciale de Maloukoua, Kinshasa. Notre invitée est Joséphine Kusinza, l'une des femmes qui avait pris part en 2010 à la Marche mondiale des femmes. Elle nous parle d'un site mémorial et touristique dédié aux femmes dans la ville de Bukavu, mais qui fait l'objet de spoliation. Mesdames et messieurs, bonjour. Le ministre de l'EPST confirme la rentrée scolaire 2023-2024 pour ce lundi 4 septembre sur toute l'étendue du territoire national. S'agissant des revendications des enseignants, Tony Mwaba répond qu'il ne faut pas tomber dans la distraction de ceux qui parlent à gauche et à droite. D'après lui, gouvernement et banque syndicale avaient harmonisé les vues en Mbola Lodge et tout le monde est d'accord que la rentrée scolaire ait lieu ce lundi 4 septembre. Suivez Tony Mwaba, ministre de l'EPST, dans cet extrait proposé par Pele Kipelamondo.
J'informe à tous les parents d'élèves ainsi qu'à tous les opérateurs pédagogiques que la rentrée scolaire année 2023-2024 démarre ce 4 septembre 2023 à 7h. Fini donc les vacances, la rentrée est bel et bien confirmée selon les calendriers scolaires. Nous ne sommes pas à un moment où, que ce soit les parents ou les vrais opérateurs pédagogiques, je pense aussi aux enseignants, doivent être distraits. Non. Les enseignants, au travers leur syndicat, nous avons été en Mbouéla, nous avons échangé, nous avons fait des évaluations, et tout a été déjà fait et avec tous les bancs syndicales, nous sommes en accord pour le démarrage de l'année scolaire, c'est lundi 4 septembre. Pas tout ce que vous suivez à gauche et à droite, ça n'a rien à voir avec les professionnels de la CRE. Les professionnels de la CRE étaient bel et bien représentés aux négociations entre banque gouvernement et banque syndicale et nous démarrons ce 4 septembre.
Santé. Au Kwilu, le nombre des morts causés par la rage continue d'augmenter dans la zone de santé de Kimputu, territoire d'Idiofa, parmi une vingtaine de personnes qui ont été mordues par le chien il y a de cela plus d'un mois. À part les 4 décès enregistrés fin juillet, 2 autres personnes sont décédées il y a une semaine après avoir présenté les signes de la rage, ce qui amène la province à 6 décès dus à la rage. Ces statistiques sont publiées par la division provinciale de la santé du Kwilu, qui dit avoir acheté les vaccins pour protéger les survivants encore sous surveillance médicale. Outre la zone de santé de Kimputu qui est touchée par la rage, il y a aussi celle de Vanga en territoire de Bulungu. Ici, au moins 5 personnes ont été mordues par le chien et sont également suivies par l'équipe médicale. Docteur Emerance Nyoka, intérimaire du chef de division provinciale de la santé du Kwilu, explique au micro de Irène Boma.
Par rapport à la situation épidémiologique de la rage, normalement la rage se vit d'abord dans la zone de santé de Kimputu où nous avons eu 23 personnes qui ont été mordues par des chiens. Et si les 23 personnes, 6 ont été décédées. Alors, par rapport à la réaction de la DPC, à notre niveau, la DPC avait acheté les vaccins. Ils ont acheté 71 doses de vaccins où les 19 personnes, on a vacciné 18, dont 17 ont eu 2 doses de vaccins et une personne a eu une dose. Selon les calendriers, il fallait prendre 3 doses. Au premier jour, vous avez la première dose, le 7e jour et 21 jours. Pour la rage, son temps d'incubation est un peu long, ça va jusqu'à 3 mois. Et à part Kimputu, il y a également la zone de santé de Vanga, où nous avons eu 5 personnes qui ont été mordues par les chiens. Et ils sont en surveillance, on est en train de surveiller ces gens, s'ils vont ou pas présenter les signes de la rage pendant les 3 mois de l'incubation.
Par ailleurs, dans la province du Maniema, les relais communautaires de la zone de santé d'Alungouli alertent sur les cas de rougeole dans la communauté, surtout chez les enfants de moins de 5 ans. Ils plaident pour une intervention urgente pour couper la chaîne des contaminations, surtout en cette période où les infirmiers sont en grève. Malumba Songe Victor, secrétaire du comité de santé de CAM 2, parle d'au moins 20 cas de rougeole enregistrés dans l'aire de santé de CAM 2 dans la cellule d'animation Kasongo. Malumba Songe Victor explique au micro de Florence Kizalunga.
Nous sommes des relais communautaires. Nous avons été dans la période de pré-marquage sur la campagne des VPO. Nous avons constaté que beaucoup d'enfants, particulièrement dans la CAC Kasongo, il y a les enfants qui sont touchés par la rougeole. Actuellement, nous avons déjà enregistré plus de 20 enfants qui sont atteints de rougeole. Mais ce qui est encore grave, cette maladie arrive au moment où les personnels de santé sont dans la grève. Alors, les parents ont du mal à soigner leurs enfants. Certains sont même poussés à recourir au traitement traditionnel qui cause aussi des problèmes. Jusqu'à présent, nous n'avons pas encore enregistré des cas de décès, mais nous craignons que cela puisse arriver dans les jours à venir, puisqu'il y a un manque de prise en charge de qualité. Et c'est comme ça que je suis en train de lancer déjà un message à tous les intervenants dans le secteur de santé de pouvoir chercher dans la mesure du possible, ensemble avec le gouvernement, comment pour cette période ici, ils peuvent chercher des mécanismes pour prendre en charge ces enfants qui sont touchés par la rougeole.
Comme annoncé dans les titres, le président de la République, Félix Tshisekedi, a lancé hier samedi la première production de carreaux et faïences de la zone économique spéciale de Maluku à Kinshasa, fabriquée en République démocratique du Congo. Pour le ministre de l'Industrie, l'étape de Maluku inaugure la phase opérationnelle du programme de création des zones économiques spéciales en vue de la densification du tissu industriel de la RDC, gage de l'éclosion de l'économie congolaise. Toujours selon lui, la première zone économique spéciale de Maluku qui livre en 6 jours sa première production industrielle avec la fabrication de carreaux et de faïences offre un large éventail d'opportunités d'affaires à la population congolaise avec un effet d'entraînement inestimable sur d'autres secteurs. Suivez Julien Paluku, ministre de l'Industrie, dans cet extrait proposé par Pele Kipela Mondo.
Le boom immobilier que va déclencher inévitablement l'envahissement du marché par les carreaux et les faïences ne passera pas sans procurer l'embauche aux ingénieurs en bâtiment, aux maçons, aux plombiers, aux électriciens, aux menuisiers, aux charpentiers, aux ajusteurs, aux ferrailleurs, aux vitriers, et j'en passe, Excellence. Si une seule unité industrielle peut donner lieu à une telle toile d'opportunités d'emploi, il apparaît clairement que votre volonté d'une industrialisation totale du pays, Excellence, Monsieur le Président, est le secret pour approcher les taux zéro de chômage d'ici 10 ans. Ce que nous voyons ici, chez Saphir Céramique, n'est qu'une goutte d'eau dans l'océan de la production industrielle dans sa diversité attendue. Les tissus industriels de la République démocratique du Congo seraient faits progressivement avec le concours de tous les autres opérateurs industriels, tant de la petite et moyenne industrie que de l'industrie lourde. Et comme nous sommes à Maluku, nous sommes également sur le point de relancer la sidérurgie de Maluku pour produire des tôles, des clous, des fers à béton afin de booster la reconstruction de notre pays.
Et puis, au Kassai-Oriental, lancement vendredi de la campagne agricole saison A. La cérémonie était présidée par le gouverneur des provinces intérimaires à la ferme Moudiba dans le territoire de Lupatapata. Julie Kalenga sensibilise les habitants de cette localité à s'adonner à l'agriculture afin de lutter contre l'insécurité alimentaire. Des explications avec Esther Ndalafina.
La campagne agricole saison A a été lancée ce vendredi par l'autorité provinciale dans la ferme Moudiba en présence de plusieurs autorités administratives et politiques. Cette saison couvre la période du 15 août au 15 décembre prochain. Le territoire de Lupatapata regorge de grands espaces de terres arables. Cependant, l'activité principale d'un bon nombre d'habitants reste l'exploitation minière. Julie Kalenga, gouverneur de province intérimaire, a profité de cette occasion pour sensibiliser les habitants de cette localité venus nombreux à cette manifestation à faire l'agriculture pour lutter contre l'insécurité alimentaire.
Je suis venu dire aux mamans, aux papas et aux jeunes que les Kassai orientales souffrent par manque de champs. Nous n'avons pas tous des champs. Si chacun de nous dispose d'un champ, nous pouvons éliminer la faim. Nous n'allons pas souffrir. Tenez là-haut.
Le Kassai oriental compte 2 saisons agricoles majeures et un potentiel, mais qui ne lui permettent pas de se nourrir et d'éliminer la faim par manque de prise de conscience, affirment certains observateurs. Esther Ndalafina Mbujimai, Radio Okapi.
Remise vendredi d'un lot important des équipements et matériels à la Direction générale des douanes et assises DGDA par la société Africa Union Financial Service, AUFS RDC en sigle. Cette remise entre dans le cadre du partenariat signé en 2015 entre cette société et le gouvernement congolais pour la fourniture et l'installation des équipements et d'un système intégré de surveillance électronique, d'inspection des marchandises et des passagers dans le but de renforcer les capacités opérationnelles de la douane. Jocelyne Moussaou a assisté à cette cérémonie de remise. Suivez son reportage.
Un lot de 44 véhicules 4x4, 9, 10 drones, 15 canons rapides, un hub satellitaire, 18 scanners, 350 caméras et un premier lot de 800 uniformes. Sur les 3000 tels que prévus pour l'ensemble des douaniers, ce sont entre autres des équipements remis par AUFS à la DGDA. Si le coût d'acquisition des équipements n'a pas été révélé, c'est renforcement des capacités de la DGDA dans les domaines technologiques et des modernisations des frontières a pour objectif d'assurer une collecte maximale des recettes. Il faut noter que ces matériels s'ajoutent à ceux précédemment reçu notamment un grand lot d'équipements informatiques au bénéfice des 6 provinces qui couvrent 25 sites douaniers, un réseau métropolitain dans la ville de Kinshasa qui couvre 8 sites douaniers connectés au serveur du logiciel Sidonia, 27 véhicules utilitaires neufs, 4 véhicules Prado, 76 motocycles, une ambulance, un camion de remorquage ainsi que la construction des installations nécessaires à la prise en charge de marchandises sous douane et le renforcement des capacités humaines.
À Goma, au Nord Kivu, les familles qui ont perdu leurs membres dans les incidents de mercredi 30 août à Kiziba 2 organisent un deuil collectif de toutes les victimes depuis hier samedi devant le stade de l'Unité. Dans une lettre d'information adressée au maire de Goma, endossée d'un accusé de réception puis signée le 1er septembre par la police nationale congolaise ville de Goma, un consortium des organisations des droits de l'homme dénommé GECODEM sollicite la sécurisation du lieu de deuil. Les organisateurs du deuil, ensemble avec les familles éplorées, vont se constituer en partie civile au procès. Ils demandent à toutes les familles touchées par ces drames d'apporter les photos et tous les éléments pour leur enregistrement. Emmanuel Nyakasane Namegabe, l'un des organisateurs, explique au micro de Sifa Maguru.
L'association GECODEM avec toutes les associations qui militent pour les droits humains à Goma et partout ailleurs, entre autres l'association IPELA, l'association Ushirika Wetu, nous nous sommes décidés d'organiser un deuil collectif devant le stade pour pleurer nos morts qui ont été lâchement tués par les FARDC le 30 août 2023. Alors ça, deux objectifs. Le premier objectif, c'est identifier tous les morts parce que le nombre est donné par différentes personnes. Le gouvernement national nous parle de 43 personnes. Il y a d'autres structures qui nous parlent de 109 personnes. Alors nous voulons recueillir tous ces gens là-bas et nous allons déposer la vraie liste à la justice. Et aussi nous voulons que tous ceux-là qui sont morts soient enterrés dignement et qu'un mausolée soit construit à leur nom. Ce deuil ne pourra prendre fin que quand tous ces gens seront enterrés.
Cette autre nouvelle, l'envoyé spécial de l'Union africaine pour la paix a clôturé hier samedi sa mission de 2 jours à Goma, au Nord Kivu. À la tête d'une forte délégation de femmes leaders africaines, Binetta Diop promet de faire entendre la voix des femmes de la RDC auprès de sa hiérarchie à Addis Abeba et à New York pour un processus de paix inclusif qui garantisse la participation et le leadership des femmes à travailler davantage en synergie pour une paix durable en RDC. Le condensé de sa visite dans ses reportages de Bernardine Diambou.
La délégation conduite par l'envoyé spécial de l'Union africaine pour la paix a d'abord échangé avec les femmes déplacées dans les camps de déplacés de Kanyaruchinya en territoire de Niragongo, puis avec les associations féminines qui œuvrent dans les mines, les survivantes du viol ainsi qu'avec l'autorité provinciale du Nord Kivu. Selon Benita Diop, la situation qui traverse la femme du Nord Kivu l'a fortement marquée.
Nous avons été fortement marqués par la situation humanitaire désespérée, humiliante des femmes et des enfants de ce camp. L'autre chose que nous avons pu aussi constater, c'est les femmes victimes de violences, les survivantes. Et ça également avec les enfants nés des viols et qui ne connaissent même pas qui sont les parents.
Face à l'envoyé spécial de l'Union africaine pour la paix, ces femmes ont décrit leur souffrance du fait de la guerre en plaidant pour le retour rapide de la paix. La coordinatrice adjointe du mécanisme national de suivi de l'accord cadre d'Addis Abeba croit que la voix des femmes congolaises sera portée à qui de droit. Madame Julienne Lusenge.
On a besoin de la paix. Elle va aller rencontrer les leaders, les chefs d'État de la région des Grands Lacs pour leur expliquer ce cri d'alarme.
La délégation a exhorté les femmes congolaises à ne pas baisser les bras, mais de continuer à avancer tout en restant unis pour mettre fin à la guerre. Goma, Bernardine Diambou, Radio Kapi.
Et dans les territoires de Lubero, toujours au Nord Kivu, une psychose règne depuis jeudi dans les villages de Bianze et Kasisi. C'est à la suite des affrontements entre les miliciens Maïmaï du FPPAP contre un autre groupe Maïmaï qui se nommerait Article 63 qui se dispute l'occupation de la zone, indiquent des sources locales. Ces dernières avancent un bilan de 2 miliciens blessés et un déplacement de la population vers des milieux jugés sécurisés. Depuis vendredi, une accalmie précaire y est observée, mais on note également une paralysie partielle des activités socio-économiques. Tout en confirmant la nouvelle, l'administrateur du territoire de Lubero, le colonel Alain Kiwewa, affirme qu'un déploiement des FARDC est déjà effectif dans la zone afin d'y rétablir l'autorité de l'État.
Actualité internationale.
Les militaires putschistes qui ont renversé Ali Bongo Ondimba au Gabon mercredi annoncent la réouverture des frontières terrestres, aériennes et maritimes depuis hier samedi, déclare à la télévision d'État le colonel Ulrich Mafumbi Mafumbi, porte-parole du comité pour la transition et la restauration des institutions CTRI. Soucieux de préserver le respect de l'état des droits, les bonnes relations avec nos voisins et l'ensemble des états du monde, et afin de favoriser la continuité de l'état tout en démontrant notre ferme volonté de tenir nos engagements internationaux, les CTRI décident avec effet immédiat de la réouverture des frontières terrestres, maritimes et aériennes à compter de samedi. Elles étaient fermées depuis le coup d'état qui a chassé du pouvoir Ali Bongo qui dirigeait le pays depuis 14 ans.
L'invité.
Joséphine Kusinza est l'invitée de ce journal. Elle parle d'un site mémorial et touristique dédié aux femmes dans la ville de Bukavu, mais qui fait l'objet de spoliations. Hier samedi, les femmes des associations de la société civile du Sud Kivu à Bukavu ont manifesté pour dénoncer cette situation. Joséphine Kusinza est l'une des femmes qui avait aussi pris part en 2010 à la marche mondiale des femmes. Quels souvenirs gardent-elles de cet événement? Les femmes sont-elles réellement déterminées à défendre ce site mémorial dans la ville de Bukavu? Notre invité répond dans cet entretien accordé à Emmanuel et la Mejoa Kabedi.
Madame José Kusinza, bonjour.
Bonjour.
Ici, dans la manifestation de ce jour avec toutes les femmes sur ce site de Ngouba, quel d'abord souvenir vous avez sur ce site?
Le site ici, c'est d'abord une place publique. Le 17 octobre 2010, il y a eu un événement mondial, la marche mondiale des femmes, qui est venue après un plaidoyer mené par nous, les femmes du site Kivu.
Oui.
Nous avons été à Vigo, en Espagne, dans une assemblée générale de la marche mondiale. Et les femmes qui viennent de partout, de tous les pays, font des témoignages. Cette marche, normalement, lutte contre les violences, contre la pauvreté.
Oui.
Alors, nous avons été témoins des violences grave qui se passe chez nous à l'est de la RDC et notamment au site Kivu. Et nous avons fait état de l'enterrement des femmes vivantes à Kasika dans le territoire de Mwenga. Et cela a beaucoup touché les femmes du monde. Ils ont pris une décision de descendre sur les lieux en marche pour passer les formations vraies, vivre, voir les sites où on a enterré les femmes vivantes et écouter de leurs propres oreilles ce que nous sommes en train de rapporter là-bas.
Les femmes du monde entier sont venues ici?
Elles sont venues, elles représentaient 42 pays du monde.
Ok. Hein,
de tous les continents. Et elles sont venues, elles sont arrivées au site Kivu en octobre. Et le clou de l'événement était le 17 octobre 2010. Il y a eu 3 sites qui ont été choisis pour les informations, les ateliers. C'était l'Athénée d'Ibanda. En tout cas, le monde a bougé vers Bukavu. Le deuxième site, c'était le site ici. Et le troisième site...
Ici, en face du marché de Ngouba.
Ici, dans le triangle, en face du marché de Ngouba. Et le troisième site, c'était à Kasika, au lieu même où on a enterré 15 femmes vivantes
dans
à l'époque du RCD. C'est ça.
Okay.
Alors, la place, le triangle ici, c'est un lieu que les marcheuses représentées par nous ont obtenu pour immortaliser les victimes des violences qui sont tombées et des suites des affres de la guerre, notamment les viols.
Immortalisé comment? Il y a quel signe ici que vous aviez placé ce temps-là?
Oui, nous avons appelé ça bosquet de la vie. Bosquet, c'est un ensemble d'arbres, mais dans les arbres-là, nous symbolisons la vie de ceux-là qui sont tombés. Alors, comme nous ne pouvons pas ressusciter les personnes qui sont mortes, on les a symbolisées par les arbres.
Les arbres.
Alors, nous avons appelé ça bosquet de la vie. Alors, au passage de la marche, comme ça a mobilisé, ça a touché toutes les sensibilités, même les politiques, l'épouse du chef de l'État est descendue sur les lieux. La ministre nationale du genre et toutes les dynamiques sociétés civiles de tous ces pays-là, y compris ceux de notre pays. Alors c'est ici que vous avez trois symboles qui ont été plantés ce jour-là ici. C'est, il y a l'arbre qui est planté par Madame Marie-Ange Loukiane, qui était alors ministre du genre au niveau national. Il y a un arbre qui a été planté par la société civile du monde. Et c'est, je crois, une femme suédoise qui a planté, qui nous a représentés tous autour d'elle, toute la dynamique société civile. Il y a l'arbre qui est encore là. Et il y a l'arbre qui a été planté pour la première dame, qui symbolise le pays, c'est la première dame. Et c'est un arbre vraiment de la vie, c'est un arbre moringa. Vous savez que moringa, c'est vraiment une plante médicinale par excellence.
Exact. Nous venons de voir tous ces symboles.
Aujourd'hui, oui.
Et aujourd'hui, quel est le problème sur le site?
Le problème sur le site, nous avons été surpris. Alors nous avons appris qu'il y a des gens de Kidam qui ont acheté la partie et qui se disputent. C'est ça qui a attiré l'attention des femmes. Elles se sont mobilisées afin de dire non à cette spoliation. Nous souhaitons que les autorités gardent cet espace. C'est un espace vert, un espace touristique.
C'est un parc bien aménagé.
C'est un parc bien aménagé. Il faut l'embellir plutôt. Et ils plantaient les monuments, un monument véritable de la femme.
Les femmes du Sud qui vous sont-elles déterminées à ne pas laisser échapper ce site aux spoliateurs?
Nous sommes déterminées, c'est pourquoi nous nous sommes levés et c'est pourquoi nous avons appelé même les hommes pour nous accompagner tels que vous. Vous nous accompagnez et nous pensons que nous réussirons. Nous allons réussir parce que celui qui va oser, il va avoir toutes les femmes sur son dos. Vous pouvez imaginer avoir les femmes sur son dos. Une seule femme là, si vous l'avez sur votre dos, c'est pas peu de choses.
Madame Josée Koussinza, merci.
Merci beaucoup.
Madame Joséphine Koussinza s'entretenait avec Emmanuel Elameji Wakabedi depuis la ville de Bukavu. Ce journal arrive à sa fin. Il a été coordonné par Jacques-Yves Molima et supervisé par Pele Kipela Mondo. Dieudonné Nyangasa a assuré la mise en onde et à la présentation, c'était grâce à Mzati Masanzi. Merci de nous avoir suivis et de réécouter ce journal sur www.radiokapi.net.